Nous vous proposons ce soir de rencontrer l'Allume-feu, une revue au titre formidable. Cette revue qui existe depuis 2018, que nous avons beaucoup croisée, nous l'accueillons, mais elle nous a accueillis à l'occasion d'un salon qu'elle organisait elle-même. Cette revue donc vous propose une rencontre sur le thème « Les revues meurent-elles aussi ?» Donc l'Allume-feu, une vie précaire, nous allons le savoir tout de suite grâce aux mots et aux bons soins de Iman Ahmed, Rémi Baye et Paul Laborde.
Merci beaucoup Yannick pour l'invitation. Merci à vous d'être là ici présent ce soir. C'est un peu étonnant quand même, alors qu'on est censé fêter la parution d'un nouveau numéro, de vous proposer une conférence autour des revues qui meurent, des revues précaires, des vies comme ça impossibles. C'est peut-être aussi à l'image un peu de nos paradoxes, où on est capable de grandes fêtes, mais aussi de s'émouvoir de nos petites tragédies. Pourquoi est-ce que ce soir on aimerait vous parler de ça? Parce que, en fait, je crois que la vie d'une revue n'est pas seulement l'objet que vous avez sous les yeux, un produit fini. C'est aussi une vie d'un collectif, pour nous une vie d'amitié, une vie d'échec, une vie de tentative, une vie d'impossible, mais aussi de coïncidence ou d'espérance. Et tout ça mis bout à bout, ça fait des vies qui ne sont pas absolument droites, en tout cas pour nous. On n'est pas dans un mouvement rectiligne. Donc ce soir, on a envie de vous parler évidemment de l'expérience de mort imminente, mais aussi de renaissance. On aimerait vous parler de pourquoi on n'est plus que trois ici à vous parler ce soir et pourquoi est-ce qu'on a déjà été beaucoup plus. Le numéro est là, en tout cas, et on aimerait quand même en parler ce soir parce que c'est un peu, si vous voulez, un cas pratique de cette expérience de vie de revue que l'on fait avec les amis ici ce soir, mais avec d'autres aussi, ces personnes-là qui sont au final des membres de ces aventures-là, mais qui ne sont pas des personnes qui font partie du collectif des revues. Je pense aux auteurs, aux autrices qui nous écrivent, je pense aussi aux imprimeurs, je pense aux libraires, je pense à tous ces gens-là qui font partie de nos galaxies intimes aussi. Et donc ce soir, on va parler de ce numéro « Aventure ». Aventure, un thème. Pourquoi? Déjà pour vous dire s'il y a des choses qu'on a gardées dans cette manière de publier des revues. C'est un objet papier où l'on choisit un thème autour duquel on propose à des auteurs et des autrices, dans un appel à contribution, d'écrire, de nous envoyer des textes, à nous de les recevoir, de partir en week-end et de boire du vin blanc, de faire la fête, de lire tous ces textes-là, de les choisir, de dire cela on les prend, cela on ne les prend pas, cela on les retravaille, car c'est comme ça que nous aussi on a choisi de vivre notre expérience éditoriale en travaillant tous les textes qu'on a entre les mains, si on les accepte évidemment. Et donc aventure, comme le numéro précédent qui était autour du thème virage, moment où nous avions changé notre maquette totalement, il veut dire une chose, c'est qu'on a eu besoin de faire en sorte que les thèmes que nous avions décidés ressemblaient à la vie de notre collectif. Que les thèmes, le dernier était virage, parce que nous étions dans le virage, numéro sorti après le confinement, un moment de soit on bouge, soit on meurt. Et là, aventure, c'est en continu, mais vers où? Et c'est toutes ces questions-là qui, en fait, aujourd'hui, on a eu envie de discuter avec vous. Et en fait, un peu comme nous-mêmes, en travaillant et en réfléchissant à cette question-là, de se dire, de parler de ça aussi à un public comme vous, dans cet événement comme ça, de parler aussi avec des connaisseurs, des connaisseuses, des revues, c'est au final parler de choses qu'on ne voit pas, qu'on voit trop peu, qu'on voit jamais ou qu'on entend mal et qui en fait sont tellement fondamentales dans les aventures des revues que je crois que plus que de parler des magnifiques textes qui sont dans le numéro ce soir, j'aimerais en tout cas... je ne sais pas si les Paul et Iman le feront aussi, mais plutôt vous parler de tous les à côté, en fait, et de tout ce qui fait le sel de ces expériences-là. Voilà.
Et c'est aussi, je pense, une réflexion qu'on a en ayant côtoyé différentes revues, et notamment grâce au salon des revues et aussi au salon qu'on a organisé, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de moments de joie et plein de moments de doute qu'on partageait, justement parce qu'on avait, je pense, une fragilité commune. On avait tous choisi de faire ni des livres, ni des journaux, ni des illustrations, mais de faire des revues. Et il y a quelque chose de formidablement précaire, je pense, dans ce projet. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure à Paul et Rémi, c'est qu'au Salon des Revues, on a fait la connaissance, enfin, on les connaissait un peu, mais on avait croisé la revue Spasme, qui était en train de mourir à ce moment-là, et on a fait la connaissance de la revue Matin, qui venait juste de naître. Et du coup, ça donnait déjà un peu la couleur de l'aventure dans laquelle on s'embarquait tous, en tant que personne humaine qui se retrouve à faire un objet aussi, aussi léger qu'est une revue. Et je pense que tu parlais des à côté, Rémi. Il y a parfois des signaux faibles qui montrent qu'on est quand même un peu tous dans le même bateau, dans le monde des revues. Un signe faible intéressant, c'est qu'une revue qui s'appelle La Ronde, qu'on aime, que vous connaissez peut-être et qu'on aime beaucoup, dit d'elle qu'elle a une parution presque mensuelle. Bon, déjà, nous, quand on lit ce presque, ça nous fait plaisir, ça nous rassure, parce que ça nous encourage à se dire, mais en fait, peut-être que le rythme, enfin, peut-être que la périodicité est quelque chose qu'on peut remettre en question si c'est une condition d'existence. Et ces petits signaux qu'on voit dans d'autres revues, ça fonde un univers qui nous conforte aussi dans cette idée que être entre la vie et la mort, ça peut parfois être quelque chose de merveilleux. Et pareil, pour reparler de cette revue La Ronde, on a voulu se tenir un peu au courant de leurs actualités. Donc hier, j'ai voulu regarder leur site internet. Et quel soulagement de voir qu'eux aussi avaient un site internet en panne, qui ne fonctionnait plus. Ce qui est le cas aussi de la revue Allume-feu. Je pense que Rémi en parlera, Paul. Mais ça, c'est des petits à côté qui peuvent être profondément réjouissants aussi. Et qu'on retrouve aussi dans une autre revue comme Ligne de risque, qui a été fondée par Yannick Enel, qui écrit d'ailleurs une nouvelle dans ce numéro. Et qui a sorti, 27 numéros en 15 ans, qui n'en sort plus que 2 depuis 2015. Bon, bah c'est pareil, ça fait plaisir de se dire qu'ils continuent de vivre, mais ils ont réussi à trouver un peu le rythme qui est le leur, et qu'il y a quand même plein de titres de revues qui pouvaient aussi déjà donner quelques indices. Voilà, Ligne de risque, L'Allume-feu, il n'y a personne qui s'appelait CDI quoi, dans les revues qui nous entourent. Et ça, collectivement, je pense que c'est des à côté qui nous confortent.
Et faut peut-être aussi ajouter, comme vous avez dit au début, Yannick, vous avez commencé en disant est-ce qu'on va faire un brasier, etc. Je pense que c'est important de... Nous, le champ lexical du feu, c'est quelque chose qui est important pour nous. Disons que ça permet aussi de caractériser les moments où on est dans des phases ascendantes, donc quand on est dans des phases de grande joie, et puis il y a des moments de récession, des moments où on peut dire que le feu s'éteint, que les braises, que l'allume-feu est en phase de panne, en cendre, etc. Et c'est important pour nous d'utiliser ce champ lexical du feu, qui est toujours un petit peu paradoxal, parce que le feu, en fait, ça existe en se consumant, donc ça se crée en détruisant. Et voilà, il y a toujours cette dualité un petit peu dans ce qu'on fait, ce moment où on est dans des phases ascendantes et des moments où également on va être dans des phases où on va être moins confiant de nous-mêmes, où on va plus être sûr de ce qu'on fait. Voilà, il y a toujours cette dualité dans une revue, ce moment où on pense qu'on va exister ad vitam aeternam, et ce moment où on est dans des phases de récession. Voilà.
Vis-à-vis du feu, est-ce que pour le coup, parce que comparer tout ce projet au feu, ça veut dire qu'il y a à chaque fois, lorsqu'il y a des flammes, de la destruction? Est-ce que ça fait partie également de cette métaphore, on va dire ?
Je pense que la métaphore du feu, déjà, pour vous donner l'essence de notre nom, l'allume-feu, partait déjà d'un principe absolument dérisoire par rapport à notre envie de faire des revues. Je ne sais pas si on peut considérer que créer une revue était pour nous un caprice, un cri, quelque chose une nécessité absolue, mais en tout cas un désir assez criard. Et en fait, on s'était dit, bon, d'accord, il y a la différence entre les envies qu'on peut avoir et leur nécessité. Et là-dessus, on s'est dit en tout cas qu'on voulait un nom qui ne nous donnait pas la pression de la réussite, ni de faire partie d'un monde un peu élitiste des lettres, ou de quelque chose en fait qui nous responsabilise, parce qu'on était déjà dans une démarche de déresponsabilisation en faisant la revue. On peut voir que ça fait partie de certains paradoxes qu'on a eus. Mais donc en fait, on s'appelle l'allume-feu parce que si la revue était trop nulle, pour vous, lecteur, lectrice, elle servira au moins à allumer un barbecue ou une cheminée. Et quand bien même vous la brûleriez parce qu'elle est naze, elle servirait à faire quelque chose d'autre, peut-être même vous nourrir, peut-être même vous réchauffer, si on a, nous, failli à notre mission de publier des bons textes. Et là-dessus, je crois que dans la vision que l'on porte de notre nom, l'allume-feu, c'est aujourd'hui, en fait, un petit carré absolument toxique. C'est quelque chose de très utile, ma foi, mais qui est un peu aujourd'hui symbole aussi des nécessités humaines pour continuer à faire des activités qu'on était savoir censé faire depuis longtemps. Et là-dessus, pour nous, ça nous rappelle que dans nos vies aussi, on a toujours cet allume-feu, c'est-à-dire ce carré incandescent qui est ici sous nos yeux et qu'on a besoin de brûler parfois pour se rendre compte que, pour en venir aussi au thème de cette discussion, c'était une question de vie ou de mort. Et là-dessus, pour vous répondre aussi, de savoir que la revue a pu mourir plusieurs fois, la revue a pu s'arrêter plusieurs fois, a été pour nous, en fait, comme disait Paul ou Eyman sur cette image qu'on a du rapport au feu, c'est quand on voit le rapport au feu le plus minime possible que d'un coup, en fait, on se rend compte du vertige de ce que cela représente pour nous et de la nécessité qu'on ait à souffler. Et d'un coup, on revient en cœur. On se remet, on se dit « Ok, là, on est vraiment à deux doigts de mourir, comme ça a été le cas. » Et là, en fait, on est vraiment en train de, si jamais on est sur un champ vraiment de cendres, on ne peut plus rien faire. Les braises respirent encore, les braises ont encore un mouvement, mais pas les cendres. Et on a été toujours, en fait, à chaque fois, à très peu de l'expérience de la dernière braise. Et c'est de là, en fait, que revient à chaque fois le retour du souffle, en fait, et le retour de, on se dit, on ne peut pas laisser ce feu mourir, on ne peut pas laisser, en fait, ce brasier s'arrêter. Ça fait 4 ans qu'il est comme ça, un peu alternatif, peut-être parfois proche du feu de forêt, de l'incendie, et parfois de la consistance d'un briquet en panne. Donc, en fait, comment est-ce qu'on jongle entre ces deux choses? C'est, je pense, une chose dont on pourrait parler, qui est celle de l'animation d'un collectif, qui est qu'est-ce qui se passe entre deux publications de revues? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'un numéro vient d'être publié? Il y a déjà l'autre, celui d'après, qui presse, qui toque à la porte. On n'a même pas eu l'occasion nous-mêmes de l'avoir envoyé à nos abonnés. On n'a même pas eu l'occasion de l'avoir distribué en librairie, parce qu'on fait ça nous-mêmes, puisque par définition, on est une revue amateur, amatrice, et que nos pratiques se correspondent à cette idée d'allume-feu aussi, donc avec tous ces ratés possibles et ces doigts brûlés. Et donc voilà, ce que l'on se demande, c'est pourquoi est-ce que l'idée consubstantielle de la revue, c'est toujours de devoir déterminer le numéro d'après alors que celui-ci vient de sortir. Et ça, c'est la grande question, je pense, dont on peut parler. Peut-être, je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, mais je crois que c'est ça aussi la grande pression des revues. Les revues meurent-elles aussi? Et c'est par de là même qu'on a décidé de parler de ça ce soir aussi, parce qu'on a accepté que le numéro là, Aventure, soit peut-être le dernier qu'on publie.
Ouais, et puis, il y a aussi l'idée que fondamentalement... Je crois que depuis le début de la revue, depuis presque la sortie après le premier numéro, on s'est dit, là, ça va moins bien qu'avant. On est toujours en fait en phase de crise, en fait, et c'est ça que je pense que ce qu'on voulait dire quand on disait l'allume-feu, revue précaire, et je pense que c'est le cas de beaucoup de revues, et notamment enfin, tout ce qui est de la micro-édition et comment dire, des revues faites sur le temps libre qui ne... comment dire, qui n'ont aucun but de rentabilité, lucratif, etc., si ce n'est d'être autonome et de s'autofinancer. On a toujours l'impression qu'on est en crise parce qu'on doit toujours se battre contre d'autres impératifs, contre des impératifs professionnels, contre le fait que il faut que comment dire que ça nous que ce projet continue à nous lier en fait et voilà en fait c'est toujours des baisses de motivation entre les différents membres du collectif, les gens qui s'en vont, ça toujours ça ou alors qui déménagent, etc. Ça porte un coup en fait, et j'ai l'impression qu'on est tout le temps précaire, tout le temps en crise, et que la précarité, c'est pas tant la précarité économique, financière, voilà, l'autonomie financière, qu'une forme de précarité, voilà, de la volonté de poursuivre dans notre volonté de poursuivre la revue, etc.
Et c'est vrai que quand il y a quelque chose de beau dans une précarité, je pense que c'est ce qu'on explique aussi, c'est l'idée de se dire que parce que il reste une dernière braise, on décide de souffler dessus, le numéro sort, donc on est nous-mêmes étonnés parfois de le voir vivant et parfois même frétillant. Et il y a aussi après une précarité parfois qui est un peu plus complexe, qui est le fait aussi qu'il faut réussir, je pense, et c'est des questions qu'on se pose tous à notre échelle, c'est à faire des choix. Donc le choix entre un temps qui a une utilité, un choix qui est le temps de l'associatif, le temps de la famille, le temps du travail, et tout ça, je pense que c'est Vous parliez de destruction. Je pense qu'une revue peut parfois détruire des amitiés, détruire, même nous détruire, enfin, parfois parce qu'on peut passer trop de temps dessus, on peut passer des nuits à faire la fête ou au contraire à éditer des choses. Donc il y a cette force-là. Mais je pense que ce qui est toujours intéressant, malgré ces deux précarités, la belle et la plus sombre, c'est qu'à la fin, voir mourir une revue, c'est se dire... Dans ce cas, ça veut dire que tout le reste, tout ce qui reste, est nécessaire. Et cette question, elle est compliquée parce qu'en fait, si on laisse une revue mourir, ça veut dire que tout ce qui nous entoure autour devait vivre. Et autour de ça, je pense que c'est des questions qu'on se pose aussi dans notre rapport au travail, dans la manière dont on décide de consacrer ou non du temps à quelque chose qui a une productivité, une utilité. Et ça, c'est une question que je trouve et qu'on trouve, je pense, profondément, qu'il y a une tension. Qui fait, c'est peut-être cette tension-là qui fait qu'à la fin on souffle et ça rallume un peu le feu et c'est aussi une réflexion plus globale sur le temps de l'associatif qui est un temps qui peine parfois à trouver sa place et le temps du collectif peine aussi à trouver sa place et je pense que tous comme tu disais Rémi on a grandi avec cette revue on a décidé volontairement et on s'en rend compte de la déprofessionnaliser. Et
de la déprofessionnaliser à mesure que nous-mêmes devenions des adultes, non, je refuse, mais devenions nous-mêmes plus des étudiants parce qu'on a commencé cette revue en étant étudiants. On travaille tous les trois, Paul et Imane dans l'édition, moi je travaille à la radio, donc on a des métiers pas si loin de ce qu'on fait, même si c'est pas du tout la même chose. C'est dire peut-être que à mesure que nous étions en train d'avancer dans nos vies personnelles et dans nos vies intimes aussi, la revue devenait de moins en moins bien administrée. La revue a été de moins en moins pro. À un moment, on sortait trois revues par an. On était dans 60 librairies en France. On avait des revues de presse. On était invité à la radio pour parler de notre revue.
En termes de collectif, on était 10. Maintenant, on est 4.
Et donc, c'est drôle de voir que les trajectoires sont absolument inverses, que dans un moment, en fait, où là, c'est notre septième numéro, donc le numéro 6, parce qu'on a commencé de zéro. Et d'ailleurs, je conseille aux revues qui veulent débuter de commencer par un numéro 0, parce qu'on sait toujours que c'est là d'où on vient, et que ça rappelle toujours que s'il y a des revues, par exemple, il y a des revues qui n'ont que des numéros 0, et celles-ci sont absolument aussi... adorable parce qu'elle rappelle que la revue, c'est... Enfin, la pas meilleure définition des revues qu'un numéro zéro, je pense, et de tout ce que ça peut concevoir comme espoir et comme volonté aussi de faire des choses. Non, ce que je voulais dire par là, c'était vraiment l'idée que, avec ce numéro-là, le numéro aventure en tout cas, on a réussi à vivre avec nos paradoxes. Et ça veut dire quoi, vivre avec ces paradoxes? C'est-à-dire mettre 2 ans pour éditer un numéro qui était vraiment vital pour nous, un numéro de vie ou de mort, un numéro, si on ne le sortait pas, c'était fini. De mettre 2 ans pour le faire, c'est un paradoxe. Un autre paradoxe, c'est, ça fait plus d'un mois et demi qu'il est sorti sous presse, on a envoyé les revues à nos abonnés, du moins ceux qui restent, que vendredi avec Imane. C'est comme si, une fois que la revue était sortie, et là d'ailleurs je vous remercie de nous permettre d'en parler, on faisait tout pour que personne ne la voie. On faisait tout pour notre synth et en panne. On n'a pas fait de service de presse, on en parle peu. On a fait juste une soirée où on a invité les auteurs et les copains avec un concert pour faire la fête et juste se dire voilà, c'est fait. Mais c'est comme si on n'en faisait pas la promotion, on l'a pas encore distribué en librairie, alors que c'est celle qu'on a eu le plus de mal à faire. Et là, c'est comme la fatigue, je ne sais pas, c'est comme aussi le fait qu'on n'ait plus que 4. Mais c'est encore un paradoxe sur l'idée que les choses qui sont les plus importantes pour nous en ce moment, c'est-à-dire que la revue soit en vie, est juste sa preuve et simplement la chose dont peut-être nous aurions besoin. Et ça pose une question sur pourquoi faire des revues, pourquoi continuer à faire tout ça. Je pense que l'autre preuve qui nous maintient et qui nous rappelle un peu à tout ça, c'est quand on a l'occasion soit de vous parler de ça, soit de rencontrer les auteurs et les autrices qui ont publié dans la revue, puisque comme on travaille par l'appel à contribution, les moments où on sort la revue et qu'on fait une fête pour la lancer, d'un coup, il y a des gens qui arrivent. bonjour, je suis Bastien, bonjour, je suis Léa, bonjour, voilà. Et des personnes avec qui on a échangé depuis un an qui nous ont dit ça sort. Nous, un peu honteux d'être là en disant, bah, en fait, on n'a rien à vous dire, on n'a aucune même perspective à vous donner, mais je sais qu'on a envie de le faire. Et là, de voir un peu comme l'épiphanie et comme d'un coup, à la fois la naissance et la renaissance et la survie, enfin, un peu tout mélangé, c'est d'ailleurs intéressant à penser. C'est des moments comme ça qui nous maintiennent et qui nous rappellent pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ces choses.
Et puis, il y a aussi quelque chose justement de très beau à prendre le temps et à refuser aussi qu'un numéro en chasse un autre. Et certes, on a par exemple posté les courriers aux abonnés uniquement vendredi, mais c'était un moment, je pense, merveilleux. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de poster, d'expliquer au gestionnaire de compte de la rue Chauchat du 9e, qu'est-ce que c'était que l'allume-feu, à compléter avec lui le bordereau, à lui parler de la revue, à s'asseoir dans les fauteuils, à se rendre compte qu'on s'était trompé de timbre-poste, parce qu'ils étaient périmés, mais à essayer de voir avec eux à quel point est-ce qu'on avait quand même une chance pour qu'ils arrivent chez nos abonnés, à se regarder, à se dire on le tente ou on le tente pas, parce que depuis 2017, quand même, des timbres, ça date, à se dire bon, allez, on le tente. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont arrivés. Mais, et au final, je pense qu'il y a quelque chose de profondément joyeux à se dire que on a décidé d'avoir ce numéro qui, certes, n'est pas un grand brasier, justement, comme on pouvait un moment se le dire, mais qui nous étonne. On a fait une soirée de lancement qui nous a étonnés. Poster les numéros à nos 70-80 abonnés, c'était un très beau moment. Je pense qu'on est prêt à le faire durer. En fait, on est confiant dans l'accident. Et c'est peut-être... Moi, je pense que c'est une notion qui... Une idée, en tout cas, qui me conforte vraiment dans le projet, que ce soit dans la vie ou dans la mort, c'est accepter qu'on est des êtres accidentés. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a plein de revues accidentées qui ont eu des très belles fins. Enfin, il y a La Hulotte, par exemple, ils ont perdu leur numéro CPPAP qui leur permettait d'être distribué en presse, en kiosque, d'être considéré comme un journal. Et du coup, les abonnés ont fait beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Et ils ont fini par vendre encore plus que ce qu'ils vendaient avant et à être encore plus connus. Et tous ces petits accidents, je trouve qu'ils apportent aussi une forme de réflexion et une autre... On s'extrait aussi de quelque chose, en fait. L'accident, je trouve, c'est une manière de sortir de l'événement et de la même manière qu'il y a des très beaux... C'est pas une reconnaissance à titre posthume ni rien, mais je veux dire, sortir de l'événement, c'est quelque chose de très... noble aussi. Il y a par exemple une expérience des banalistes, où ils n'ont pas fait de revue, mais c'est deux amis qui, dans les années 80, ont décidé de se retrouver dans la ville de Fade pour regarder passer des trains. Donc ils ont envoyé des invitations à 400 journalistes, plein de gens. Ils étaient deux la première année. La deuxième année, ils ont renvoyé encore des invitations en disant c'est à telle date qu'on se retrouve, gare de Fade, on regarde passer les trains. Et ils étaient encore deux. Troisième année, ils étaient encore deux. Ils ont fini par être 80 au bout de 7 ans. Et en fait, ils ont décidé d'eux-mêmes de sortir de l'événement. Ils le faisaient le jour de la fête de la musique. Ils sont nés au moment de la fête de la musique aussi. Et c'était une manière de dire que peut-être que parfois, on a besoin de s'extirper de cet événement-là. Et je trouve qu'une fois qu'on a fait le deuil de l'événement, qu'on accepte de vivre accidenté, à l'échelle du collectif, il y a quelque chose de confiant qui s'installe.
Oui, et tout ça pour vous dire que ce numéro-là, on a réussi à le faire aussi parce qu'on a accepté tout ça. Enfin, en fait, il pourrait y avoir là un contrepoint. Vous pourriez me dire, bon, vous parlez que d'échecs, mais vous avez quand même réussi à sortir cette revue. Vous êtes un peu aussi en train d'esthétiser votre échec, d'en faire un discours, de le prendre pour argent comptant. Je vous dirais d'accord, c'est vrai. Peut-être que parmi tous ces échecs-là, il y en a des moins beaux, des réunions sur Zoom où on est deux à 21h30 un mardi soir et que personne n'a envie de parler. Des choses qui font que le quotidien n'est pas fun du tout. Mais je pense que pour éviter... que la vie soit trop lourde et trop pesante, il faut accepter de vivre selon les caractères qui nous sont propres. Et depuis le début de l'allume-feu, on voulait dire revue un peu l'air de rien ou espiègle. Enfin, c'était des mots avec lesquels on se caractérisait sans l'être. Et là, on a décidé de non pas partir de la revue pour la caractériser directement et lui donner des caractères qu'elle n'avait pas, mais de voir comment on vivait pour lui transmettre ces caractères-là. Et donc, on a d'ailleurs changé notre manière de nous présenter. Aujourd'hui, au-dessus de l'allume-feu, vous verrez qu'il y a écrit « Revue incertaine, littérature émergente ». Et donc voilà, c'est écrit ici, c'est notre petit, je sais pas si c'est une justification, je sais pas si c'est une manière, voilà, de dire ça, mais revue incertaine, c'est pour nous rappeler qu'on ne sait jamais quand on va sortir et que si ça se trouve, chaque numéro sera le dernier. Et pour littérature émergente, c'est le guide qu'on se donne aussi dans notre exploration littéraire, parce qu'il y a ça aussi quand même. Ce pourquoi je pense qu'aussi on a décidé d'aller plus loin dans ce numéro-là, c'est qu'on a décidé de franchir aussi une étape dans notre rapport à la littérature, de choisir des textes qu'on n'aurait peut-être pas publiés il y a quelques années aussi, parce qu'ils sont assez expérimentaux dans leur forme littéraire, ils sont assez risqués. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, c'était par le risque qu'on aimait vivre et qu'on aimait être en vie, peut-être. Il y a un autre moment, je sais que ça a fait rire Yannick, on a un moment, on était en situation de vie ou de mort par rapport aux bourses du CNL. Et ça, je sais qu'il faut aussi en parler par rapport au financement des revues. Et notamment, on n'a rien contre cette institution-là, mais à un moment, il a fallu nous se dire, est-ce qu'on est une revue de poésie? Est-ce qu'on est une revue de critique littéraire? Qui on est, en fait, cette question fondamentale de qui sommes-nous? Et là-dessus, très dur de pouvoir déjà, quand nous-mêmes, on ne sait pas qui on est, de devoir définir et se présenter en tant qu'un tel ou une telle, c'est très compliqué, donc on n'a pas réussi. On nous a aussi dit, la revue, elle est trop foutraque, elle n'est pas assez organisée, elle part trop dans tous les sens. Et nous, on a commencé à paniquer, on s'est dit, ah mais mince, il va falloir qu'on fasse ça, qu'on ressemble à telle personne, qu'on ressemble à tout ça. Et au final, on s'est dit, bon bah en fait, est-ce qu'on peut faire 100? Et si on peut faire 100, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut... Plutôt que se demander comment on va répondre aux règles, on va encore se demander comment on peut les dépasser encore plus. Et là, encore une fois, le passage de la mort imminente, on n'a pas de financement du CNL, on va mourir, à l'expérience de « eh ben, on s'en fout et on va faire ça comme ça et c'est comme ça qu'on va survivre », c'est au final un peu les questionnements, je pense, de la création artistique en général, de la création de littéraire et des revues, mais de là-dessus aussi se dire à un moment « eh ben... on sait qu'on a fait une croix sur le CNL, alors on va faire autrement. » Et là, notamment, on a pris un risque, notamment parce que par rapport à l'aventure que représente l'allume-feu, par rapport à ce thème aussi, il y avait la question d'expérience qu'on voulait, qu'on a déjà pu faire avec Imane une fois dans une de nos résidences qui était les 10 heures de littérature, où on a invité à notre table des inconnus en leur proposant de discuter avec eux et de, à la fin, leur tirer les textes, c'est-à-dire de finir par leur faire une ordonnance littéraire ou leur écrire un poème en direct, comme une forme de happening littéraire, quoi. Et on s'est rendu compte que les 10 heures de bonne aventure, de passer aux 10 heures de littérature, avec un côté un peu mystique, un peu aventure, tout ça, ça nous plaisait beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de ne pas faire de sommaire habituel dans ce numéro-là, sur lequel on donnerait des numéros de pages au texte, mais simplement, on a décidé de donner dans ce numéro-là, à chaque texte, une carte du tarot marseillais pour que chaque lecteur, chaque lectrice qui lit cette revue décide de se faire tirer les cartes un peu comme la bonne aventure. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a même soumis notre sommaire au hasard. Et que si on commence à soumettre le sommaire au hasard, ses financements au hasard et toutes ces choses-là, ben on cherche un peu quand même les ennuis, je le sais, mais c'est comme ça qu'on aime vivre, je crois.
Et même, je pense que par rapport au fait qu'on publie de moins en moins, qu'on est précaire, je pense aussi qu'on a voulu limiter au maximum, peut-être pas abandonner, mais limiter au maximum notre rapport à l'administratif, en fait, et à tout ce qu'on n'aime pas faire, c'est-à-dire... Ça nous prend la tête de faire des dossiers de subvention auprès du CNL ou de la ville de Paris. Ben en fait, on arrête de les faire. Notre site internet, on n'avait pas envie d'appeler l'hébergeur pour renouveler le bail de notre nom de domaine. Ben on le fait pas, et puis c'est pas très grave de pas avoir de. Mais enfin voilà, on limite au maximum notre rapport à l'administratif. On est plus dans une forme d'épure de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire écrire, éditer des textes, travailler avec les auteurs. Voilà, c'est vraiment limite au maximum tout ce qui est administratif.
Et il y a ce qu'on limite, et il y a ce qu'on a décidé aussi ce sur quoi on a décidé de se concentrer. Je pense que une revue et je pense que c'est ce qui fait aussi le point commun entre plein de projets, c'est que c'est avant tout pas des aventures humaines, mais si, c'est un peu de la vie et de l'humain. Et on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait dans l'allume-feu, c'était tout ce que ça pouvait provoquer, justement. Provoquer comme rencontre, provoquer comme accident. Rémi, tu parlais des 10 heures de littérature, mais très vite, on s'est rendu compte que ce qu'on aimait, c'était faire inviter des groupes live à jouer pour nos lancements. On s'est rendu compte qu'aussi, bah, c'était possible en fait, d'appeler un groupe, de trouver un bar et de trouver des câbles pour que tout se branche et tout se connecte bien. Et que c'était profondément excitant d'organiser un concert live et d'offrir à nos lecteurs et aux auteurs qui venaient pour ce lancement un moment collectif où on ne savait pas ce qui allait être joué et plus personne n'avait de prise sur ça. On a eu la chance de rencontrer des groupes qui ont accepté de jouer ce jeu avec nous. La générale qui nous accueille a accepté aussi de jouer plein de fois le jeu de ça. Et provoquer des accidents, c'était pas que faire une revue, c'était aussi essayer de surprendre. Et du coup, c'est pour ça qu'on trouve dans nos revues quand même pas mal de correspondances, des lettres qu'on envoie à Régis Debray, lui qui nous répond, des numéros qui, quand ils sortent, on les envoie à des tenanciers ou des tenancières de bar parce qu'on a envie de voir ce que ça provoque comme accident. Et du coup, la revue est devenue aussi un outil pour nous pour être dans le monde différemment et pour aussi créer des... Et aider, enfin être un outil pour d'autres aussi, pour nos lecteurs, pour entrer dans le monde différemment. À notre dernier lancement, il y a un bûcheron dans le Jura qui a pu faire la connaissance d'un formateur qui vit en Île-de-France. Ils ont globalement...
Tous les deux avaient écrit des textes dans le numéro, c'est pour ça. Ouais,
c'est ça, tous les deux avaient écrit dans ce numéro. Ils avaient globalement rien en commun, je pense, et leur chemin ne devait pas forcément se croiser. Mais ils ont parlé ensemble toute la soirée, et ça, c'était suffisant, en fait, comme histoire à se raconter sur pourquoi est-ce qu'on avait fait... pourquoi on avait fait ce numéro et sur les accidents qu'on provoque, il y a aussi un projet qui était au tout début quand même du numéro et enfin de la revue qui était le travail avec les patients de l'hôpital psychiatrique de Toulon où on a accepté on a même été profondément heureux et touchés et ça a tellement enrichi la revue de soumettre le thème à un atelier qui a fait travailler du coup et écrire des patients de cet hôpital psychiatrique de Toulon dont on a publié les petites phrases et les poèmes et la lecture. Donc à chaque fois c'était sur le thème, donc que ce soit feu, classe, triche et ça provoquait aussi pas mal d'accidents de lecture parce que on n'a pas expliqué la démarche, on n'a jamais vraiment expliqué pourquoi au lecteur, mais j'ai trop fait bande à part pour avoir la classe, parce que la classe, c'est l'anachronisme du passé. Et ça arrive à chaque fois en bas de texte. Et la classe, c'est ma broche en or Yves Saint Laurent sur ma veste Via Milano. C'est mon père qui me l'avait acheté, mais comme je ne sors plus en boîte de nuit. Et tout ça, c'est des accidents de lecture qu'on a envie aussi de partager avec les lecteurs, de la même manière que j'ai réalisé cette nuit qu'avant, nos éditos, on ne les écrivait pas, on les jetait dans le numéro. Donc, c'était des feuilles volantes qui étaient jetées à l'intérieur de chaque exemplaire. Donc, je crois que cette idée de se dire qu'on veut provoquer des choses et avoir une incidence sur le réel, ben c'est peut-être, ça fait peut-être partie aussi du projet. Et plus on arrive dans cette épure, je trouve, plus on essaie en tout cas de la toucher.
Oui, et dans ce que dit Imane, là, par exemple, elle a sorti le numéro 4. Là, on en est au numéro 6. Et en fait, on avait pris déjà la décision de la métamorphose, c'est-à-dire que notre charte graphique change à chaque numéro. Et tout en sachant qu'on n'a pas écrit de manifeste, on n'a que notre confiance entre nous, le fait qu'on soit quand même amis, mais qui nous relie, parfois, en fait, on n'a aucun point de repère pour savoir si on continue à être dans l'ADN de notre vie ou non, parce qu'il est tout le temps en train de changer. On sait juste que ce qui tient... Et encore, ça reste en débat, c'est de faire un numéro en papier, voilà, non relié, pour que les feuilles puissent se perdre et soient volantes au cas où. C'est la seule chose qui, au final, n'est pas... et encore, de la relier a déjà été mis en débat, mais chaque numéro qu'on a sorti a à chaque fois changé de charte graphique, quand bien même il y ait des correspondances, des petites choses qui se tiennent, et d'avoir acquis, en fait, la forme permanente du changement ne donne aucun repère, donc peut être une façon de se disperser énormément. Mais nous, je crois que c'est notre manière aussi de savoir, on disait dans un édito, ailleurs est une bonne direction. Et je crois que c'est comme ça que nous, on se sent bien, considérant que le mouvement et l'ailleurs est toujours la source à aller trouver pour continuer à rester en vie ou pas. Parce qu'en fait, je crois que être sur place et continuer à juste être... planter, je crois que ça ne nous intéresse pas trop. Mais...
En fait, c'est l'idée que On essaie de révolutionner, c'est peut-être un bien grand mot, mais la maquette à chaque numéro, c'est parce que c'est ça, c'est toujours être dans le mouvement et ne pas être... En fait, je pense que ce qui me plaît le plus dans cette revue, et notamment les deux, trois derniers numéros qu'on a fait, c'est de dire que la Lumefeu n'a pas d'identité. Parce qu'elle n'a pas d'identité, elle n'est pas identique à elle-même. C'est vraiment l'idée. En tout cas, on peut dire bien sûr qu'elle a des signes caractéristiques. En revanche, j'aime bien l'idée de dire qu'elle n'est jamais identique à elle-même. C'est peut-être plutôt ça. Jamais identique à elle-même, parce que, en effet, l'identicité, moi, ce que je trouve. Dire qu'il y a une identité, je trouve que c'est aussi une forme de stagnance. C'est une forme de quelque chose qui ne se réinvente pas, qui peut-être est une forme de petite mort, elle aussi. Et au contraire, en fait, être toujours dans le renouvellement, ne pas avoir exactement d'identité, c'est être dans le mouvement. C'est être dans une forme d'élan vital, en fait, que je trouve nous n'avions plus dans les premiers numéros. On avait toujours la même maquette. On était sur une sorte de chemin de fer un petit peu plan-plan. Et à la fin, c'est notamment le numéro classe, on n'était plus vraiment satisfait de cette maquette. Donc j'aime beaucoup l'idée de, à chaque numéro, repenser complètement la maquette, quitte à perdre les lecteurs, quitte à nous perdre nous-mêmes. Parce que de toute façon, la revue, on l'a fait avant tout pour nous. Et les lecteurs, ça vient après. Et s'il y a des lecteurs, c'est génial, mais on l'a fait avant tout vraiment pour nous. Et j'aime l'idée de se perdre à chaque nouvelle maquette.
Ouais, tu disais l'identité, ça me fait penser à Clément Rosset qui a écrit le traité de l'idiotie, où il dit le réel est idiot, mais idiot dans un sens singulier. Et je crois que c'est quelque chose dont je me revendiquerais bien. L'Allume-feu revue idiote, mais dans le sens idiotesse, quoi, singulière, et de marcher un peu sur cette ligne de crête entre l'Apollinien et le Dionysiaque, qui est en fait notre route tragique de cette ligne de crête qu'est la revue.
Et c'est vrai que quand tu dis on l'a fait avant tout pour nous, mais c'est vrai que dans ce nous, c'est un nous aussi qui regroupe, je pense, beaucoup d'auteurs et tout un collectif qui nous suit quand même depuis le début et avec qui on est profondément heureux d'avoir partagé des belles histoires. On pense par exemple à Asia Julai qui a écrit le début en fait de son roman qui ensuite a été publié chez Gallimard, et ça c'était, je pense, quelque chose dont on était très très fiers. C'est pas forcément qu'on cherche du crédit, c'est juste que ça veut dire qu'on peut partager, et je pense que toutes les opportunités, tous les moments de partage et d'ouverture de la revue vers le plus grand nombre sont des moments qui permettent aussi de souffler sur ces braises dont on parlait. Il y a des auteurs qui n'ont jamais été publiés, qui écrivent à des revues depuis parfois 30 ans, qui soit n'ont pas eu de retour, soit en ont eu mais n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir discuter avec quelqu'un de leur texte. Et ça, c'est aussi des grands moments de partage. De la même manière qu'on puisse avoir ce poème qu'on reçoit, parfois pas signé, qu'on peut publier ou dont on ne connaît pas forcément l'identité, à côté d'un texte d'Alexis Génie. Et je trouve que ces mélanges-là et le fait qu'on ait décidé aussi de ne pas, alors après beaucoup d'hésitations, et de ne pas avoir de bio, par exemple, des auteurs, de ne pas présenter qui écrit dans la revue, ça permet, comme tu dis, de ne pas avoir une identité forte et du coup d'ouvrir les pages en fait vraiment à tout le monde et à aucun moment d'avoir la moindre ligne directrice ni le moindre angle, ce qui pour le coup à plein de moments a été vraiment en réflexion, notamment pour avoir des bourses, parce que ce que tu disais Rémi, c'est que le CNL, la fin de l'histoire, c'est qu'on rentrait dans aucune catégorie des commissions, donc on était trop foutraque, mais aussi même dans la commission revue, il n'y a pas la flexibilité d'avoir quelque chose qui n'est ni de la littérature, ni de la poésie, ni, en fait. Et c'est vrai que même tout l'administratif est tout le temps entré dans la revue, même de manière profondément bordélique. Et le CNL, typiquement, c'est quelqu'un qui travaille au CNL qui cherchait des petits Pac-Man avec son téléphone. Et on était en train de rentrer justement les revues qu'on venait de trouver, on les rentrait, on voit un monsieur qui cherche quelque chose, on lui dit, mais monsieur, vous cherchez, comment on peut vous aider? Vous avez l'air de chercher quelque chose de très très important. Et il nous dit, bah oui, en fait, à l'intérieur de ce bâtiment, donc qui était la générale où on était, il y a un Pac-Man qui vaut, Space Invaders, qui vaut énormément sur mon jeu. Et on dit, ah mais il faut évidemment que vous le trouviez. Et du coup, on l'a fait rentrer, on lui a parlé, et on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui travaillait au CNL et qui nous a parlé de cette bourse où il restait encore 2 semaines pour candidater. Bon, résultat, on ne l'a pas eu. Mais c'était jamais on n'aurait pensé à candidater. Et ça veut dire qu'il faut écouter je pense qu'il faut écouter ces signaux faibles et que tout ce qui est de l'ordre du hasard et des rencontres fortuites est pour nous un indicateur fort.
Et vous voyez là, je ne sais pas, déjà nous on fait un exercice de réflexivité là, on parle de nous et c'est assez nouveau de parler, pas, il aurait été beaucoup plus facile de vous parler du contenu, du numéro exactement, de comment on l'a fait tout ça, mais c'est la première fois nous qu'on a la chance de dire ça et de faire ça aussi, donc c'est quelque chose de, ben de, d'important aussi pour nous d'avoir un regard réflexif et c'est assez rare je pense dans, à notre niveau de pouvoir le faire, mais je ne sais pas si vous avez remarqué là, déjà, même la dynamique de cette discussion entre nous trois, on est passé par les phases qui sont les phases habituellement les nôtres. C'est qu'en fait, on est passé par vous raconter le numéro. Ensuite, on a parlé de tout ce qui n'allait pas, donc un peu de l'expérience de la mort. Et là, on commence à vous raconter, on tire dans les souvenirs, on tire dans les mouvements, dans ce qui nous anime un peu dans la revue. Et là, en fait, on repart un peu aussi sur l'énergie, sur la redescence. Et voilà, c'est que ça. C'est ce roulis permanent. Et même là, dans cette, je ne sais pas depuis combien de temps on parle, mais dans ce petit moment, rien qu'à tout les trois, même si on avait prévu quelques trucs, c'est dingue de voir qu'il y a exactement cette même dynamique de basse intensité, de hausse intensité et qu'en fait, il y aura toujours un truc pour nous rattraper. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on arrête là-dessus ou si vous avez d'autres choses à dire. Non, mais si vous avez des questions.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans. Et ma question, c'était portée vis-à-vis de lorsqu'on parlait toujours sur le thème du feu, de la légèreté. Donc, du fait bah, que j'ai du mal à me souvenir, je suis un peu fatigué. Mais je n'avais pas pu établir la nuance si, en fait, cette légèreté de... je ne me souviens même plus de ma propre question. C'était en rapport avec le soulagement ou la peur, justement, de la mort de la rue. Bah, ce n'est pas très clair parce que j'ai
si,
pas...
Si.
J'ai pas défini ce que je veux dire par légèreté.
Vas-y, Rémi.
Donc, en fait, de savoir si on donne cette légèreté-là juste parce qu'on est véritablement comme ça ou si parce qu'on sait que les choses sont vaines et qu'on va sûrement mourir, est-ce que c'est comme une forme de dilettantisme de facto parce qu'on sait que la revue est un objet en dilettante et ou même pas, hein, d'ailleurs, on tient ce propos, mais vous qui êtes ici spécialiste des revues, si ça se trouve, c'est pas trop ça, en fait, je crois, les définitions possibles des revues, mais je crois qu'il y en a mille. Non, je dirais que je crois que, ben, encore une fois, pour vous répondre, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, je pense, c'est parce que c'est le refus d'être statique aussi et la capacité de vivre selon des intensités différentes. La légèreté, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous anime. Pourtant, le feu peut être puissant, peut être grave, peut être destructeur. Le feu peut être... il peut faire peur, alors que là, pour nous, on le voit plutôt comme une lumière, peut-être. Et que, en fait, je pense que la question de la légèreté revient à ce que je vous expliquais sur l'origine de notre nom. Et que si on a peu de repères sur ce qu'on fait, de se rappeler qu'on est l'allume-feu parce que ça doit faire le bruit en fait d'une allumette sur un grattoir en fait. Ça doit ces petites références sonores là qui doivent nous donner repères et de dire aussi que on avait conçu dès le départ que on était immortel et pour rire. Enfin, parce que le nom lui-même était une blague. Et on a failli s'appeler le Caltable, d'ailleurs. Je ne sais pas si on aurait eu meilleur destin avec le Caltable, pour caler les tables à la fin quand elles sont branlantes. Et donc, voilà, c'est que c'est un repère qui consubstantiel, oui, à la légèreté, pour répondre. Ouais.
Et je crois que c'est aussi une réflexion sur ce qu'est la légèreté, même. Et je pense qu'il y a un projet presque politique de se dire qu'il faut mettre tout le sérieux du monde à être léger. Et c'est une exigence qui, aujourd'hui, est très, très dure à tenir, je trouve. Et on essaie de s'en souvenir tous les matins. Et tout le monde, il y a plein, plein de gens sur cette terre qui essaient de s'en souvenir, mais je trouve que c'est très compliqué.
Et je pense que pour revenir à ce que tu dis, Imane, pour moi, ça s'appelle l'expérience du tragique, en fait. C'est considérant que les choses sont mortelles et que le monde est fini, pourquoi pas faire l'expérience de la joie intense et de l'expérience pour un peu contrecarrer les plans de ces destins-là.
Et aborder sérieusement l'idée que cette revue, elle va se finir. Enfin, peut-être elle va se finir dans 3 mois, peut-être elle va se finir dans 5 numéros, mais comme tout, tout finit. Et en fait, se dire, bah, si c'est le dernier numéro, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on se sera bien amusé. On aura cimenté cette revue dans la fête, parce que c'est quelque chose d'important. La fête, c'est l'accident, c'est se laisser porter par la nuit, par des inconnus, etc. Et en fait, se dire avec légèreté, bah, si la revue finit maintenant, c'est, oui, voilà, c'est pas très grave.
Eh bien, écoutez, on ne va pas finir là-dessus. Moi, j'aurais une réflexion qui me vient immédiatement, c'est que votre plus grande force et votre plus grande faiblesse, c'est que vous êtes jeune. Et par définition, on a vu tellement de beaux projets arriver à entrevue, de belles revues, de jeunes revues faites par des gens jeunes. Et votre plus grand défaut, c'est de bouger tout le temps. Vous partîmes, c'est quoi le vers célèbre ? Nous partîmes 500 et par rapport au renfort, vous, c'est le mouvement inverse. Mais c'est parce que vous vous séparez pour d'autres projets, peut-être d'autres revues. Alors qu'avez-vous à répondre à ça, moi qui ne suis plus jeune? Parce que c'est vrai que le thème quand même de l'accident, la mort, revient souvent. Mais on vous sent plein de vie, plein de désir et l'envie de continuer. C'est ça qu'on entend surtout.
Oui, ça fait partie peut-être de nos paradoxes. Et je crois que... On a une revue. À partir de quel moment devient une vieille revue d'ailleurs?
Je me pose la question. Tu as évoqué tout à l'heure le fait de l'âge, surtout ne pas être adulte, mais.
Oui. Non, mais c'est à partir de quel moment et je pense qu'on rentre dans des questions fondamentales je parle pas d'institutionnalisation, mais à partir de quel moment en fait on arrive à pérenniser une revue, c'est quand elle sort à échéance stable, est-ce que c'est quand on a assez d'argent pour qu'elle perdure, je sais pas, tout ça, je sais pas d'ailleurs quels critères on pourrait donner à ça, et sûrement en fait que notre jeunesse fait de nous un peu des chiens fous qui veulent courir toutes les balles à la fois dans le parc, mais en même temps c'est ce qui nous rapproche le plus de l'espace de tentative qu'on veut maintenir et de l'espace peut-être de possibles perditions qu'on va trouver parce que on sent toujours qu'il y a des appels, des endroits vers lesquels on bifurque en fait, et c'est que ça, le numéro précédent il s'appelait Virage, parce qu'on savait qu'on était en train de tourner, mais aussi on savait qu'on était en train de grandir. Et une des raisons pour lesquelles on n'est que 3 là à vous parler, que le collectif avant était de 10 personnes, c'est que certains sont partis aller travailler ailleurs, c'est que certains ont été mutés, c'est que d'autres ont eu d'autres choses à faire de leur quotidien, de leur soirée, de leur week-end, et que en fait, je crois que ça veut dire un peu ça, plus être jeune pour moi. Enfin, en tout cas, moi, c'est une question que je me pose sur l'idée que jusqu'où, en fait, nos vies, comme disait Iman, familiales, amoureuses, professionnelles, si l'on ne choisit pas que c'est une question de nécessité ou non de faire l'allume-feu, commence à faire en sorte qu'on a de moins en moins de temps de le faire. Et peut-être que c'est plutôt par l'expérience qu'on s'est rendu compte qu'on était encore jeune parce qu'on continue à faire des bêtises, mais qu'on l'est de moins en moins parce qu'on est face à des problèmes d'adultes.
Et d'un côté, cet espace, il a d'autant plus... Enfin, plus on entre dans ces problématiques-là, plus le terrain couvre l'allume-feu est rare, en fait. Et je pense que plus on va vieillir... Plus le périmètre de l'allume-feu va se rétrécir, mais peut-être plus il aura une valeur justement à nos yeux. Et il y a la revue, mais il y a aussi tout ce qu'elle a infusé en nous. Je pense qu'on s'est tous professionnellement construits aussi à travers ce projet. Comme disait Rémi, on travaille tous plus ou moins dans des domaines sur lesquels on a pu avoir des certitudes grâce à ce projet-là au début. Et ça, c'est un peu, c'est pour éviter d'avoir un recto verso qui s'oppose, c'est que tout est lié. Et je pense que même si on continue de dire qu'on manque de temps, et c'est vrai qu'on manque de temps, enfin, quand on venait avec Paul, je lui disais, on courait, on quittait le travail là pour venir ici, on avait chaud, on prenait le métro, on relisait nos notes, parce qu'on avait des notes quand même, et j'ai dit, mais je crois qu'on va mourir tôt, Paul. Et toi, Paul, tu m'as dit non. Tu m'as dit que non, parce qu'en fait, c'est juste une manière d'être vivant, et je pense que c'est peut-être ça, la jeunesse, mais il va falloir...
Je t'ai déjà dit non, parce que j'espère que tu as tort, déjà. Mais non, c'est ça, oui, c'est Enfin, je sais pas ce que c'est que la jeunesse. Moi j'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment adulte. On est tous des enfants. Enfin, ça a l'air cucu la praline dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'on ne devient jamais vraiment adulte. On sait pas. Enfin, à quel moment. Peut-être que devenir adulte, c'est le moment où on commence à avoir des responsabilités. Et oui, en effet, c'est vrai qu'on a plus de responsabilités que quand on a commencé la revue. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, il y en a qui ont quitté la revue. En fait, plus on a des responsabilités, moins on a de temps à léguer un projet qui n'est pas rentable, qui est quelque chose qui est fait sur le temps libre, qui est quelque chose qui est en fait de l'ordre de la création, c'est-à-dire de quelque chose de totalement gratuit, non rentable en fait. Et peut-être que c'est ça, devenir adulte, c'est de se détacher de tout ce qui est gratuit, peut-être.
Ça me fait penser à un mot qu'on n'a pas dit, qui est l'ivresse. Et je crois que, en fait, aussi, déjà, ça rime avec jeunesse, mais ça me rappelle le poème « Il faut être ivre, tout est là, c'est l'unique question ». Et je pense que tant que l'allume-feu nous maintient des ivresses, ça reste un indicateur qui n'a rien à faire avec l'âge, mais qui peut faire partie des choses qui veulent dire qu'on continue à faire des bêtises et qu'on est dans cet entre-deux de la vie. Mais d'ivresse d'un sens très sérieux, hein, pas un seuil d'éthanol. Je parle vraiment de l'ivresse comme ce rapport au monde absolument curieux et toujours évanescent. Et je crois que ça fait encore partie de notre relation à la revue et au monde en même temps.
Vous parliez tout à l'heure de ce dernier numéro, enfin du plus récent numéro plutôt, comme d'une manière peut-être d'accepter aussi vos paradoxes, ou plutôt ceux dont vous êtes peut-être rendu compte. Mais est-ce que, à côté de ces puissances dont vous ne savez pas apparemment d'où elles viennent et qui font que parfois vous continuez, vous n'avez pas accepté ces paradoxes précisément en vous rendant compte que ça demandait aussi d'accepter tout le reste, c'est-à-dire parfois le glauque de ces soirées Zoom à 21h où il ne se passe rien, parfois, je ne sais pas, de l'ennui, peut-être du dégoût de ne pas trouver la solution, etc. C'est-à-dire de tous ces moments qui sont creux et complètement, mais qui font partie peut-être un peu d'un tout. Au fond, est-ce que ce n'est pas vouloir voir tout en même temps qui vous a fait réaliser ça?
Je pense que d'une oui, et puis d'un autre côté, j'ai pas non plus la réponse, parce que je sais pas si on va accepter quand même les soirées glauques, si on va quand même réussir à passer outre ces dysfonctionnements, à passer outre la question du financement. Et je pense que là où c'est vrai, c'est que on a accepté peut-être d'étaler tous ces soucis-là et de se dire que à un moment, les choses allaient peut-être trouver leur équilibre et qu'il n'y avait peut-être pas l'urgence de juger un moment ou de juger la qualité d'un choix et peut-être s'en remettre un peu à demain. Et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Rémi ?
Non, je me dis aussi qu'il y a un moment aussi où il y a notre perception et la vôtre, dans le sens où, pour vous, à la fin, il ne reste que ça. En fait, il reste le numéro sur lequel vous pouvez juger de notre travail, de notre préparation, de notre rapport à la littérature, de notre vision. Et nous, on a tout le reste, en fait. Et c'est intéressant, dans la question qu'on pose ce soir, les revues meurent-elles aussi, de savoir qu'il y a l'objet et il y a tout le reste. Et l'expérience de tout le reste qui donne cet objet-là est consubstantielle, je pense, à tout ça. Et comme disait Iman, oui, c'est... jusqu'où la rétribution de tout ça s'équilibre. Et en fait, jusqu'où le plaisir absolu d'être là à vous parler, d'avoir cet objet dont on est fier, on peut le dire aussi, parce qu'on a l'air un peu canaille comme ça, mais on est très fier de ça, et ça nous donne un peu des frissons de pouvoir le voir en perspective, là, sur une table, avec des gens qui nous regardent en parler. Tant que cette chose-là nous procure encore des sentiments positifs, des affects heureux, je crois que l'indicateur, il bascule quand même d'une balance plutôt favorable.
Ouais, non, ça, tu parles de l'affect. Juste cette chose qui est assez touchante, qui est de, en effet, galérer à sortir le numéro. Et puis, en fait, cette chose très, très belle, je trouve, qui est de malgré tout se faire violence pour faire de l'autodistribution en librairie, que ça finisse dans une librairie à Bruxelles, que ça finisse dans une librairie à Marseille, parce qu'on a des amis qui vont les déposer, etc. Et qu'on rencontre quelqu'un un jour à Marseille qui, de fil en aiguille, on se rend compte qu'il a lu cette revue, alors qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on doit être à N+8 de relations. Enfin, et se dire que en créant cette chose, avec sur un temps plus ou moins long, sur un temps long peut-être, on va créer un affect positif chez quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez sidérant et qui est très agréable en tout cas.
Et tu parles du faire ensemble, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a beaucoup questionné, c'était justement ce qui se passe entre la revue et le monde. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, mais du coup, pour nous, il y a plein de processus qui sont profondément excitants et qui sont aussi profondément impalpables. Et c'est aussi pour ça qu'on a quand même, on ne sait pas si on va y avoir un prochain numéro, mais on a quand même un thème pour le prochain numéro qui est profondément lié à cette question, qui est le thème magie et qui est lié à tous ces phénomènes particuliers de amener des revues quelque part et de ne pas savoir comment est-ce qu'elles arrivent dans les boîtes aux lettres, à une rencontre dans un libraire, dans une librairie avec la revue et tout ce qui s'entrechoque. Et typiquement, je pense que la question du paradoxe, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un prochain numéro, mais qu'est-ce qu'on y pense quand même à ce thème magie depuis pas mal de temps.
Moi, je voulais poser une question, je l'avais prévenu, hein, que je poserais une question ouverte et vache. Et Iman, tu as utilisé les mots de territoire, d'espace. Alors, les revues meurent-elles? Est-ce que les lieux peuvent mourir? Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Donc, nous sommes à la Fondation MSH, qui accueille Entrevues depuis quelques mois. On s'est connus au Salon de la Revue et par une grande politesse, malgré votre jeunesse, ça rime, vous nous avez invités dans un salon que vous avez créé. Est-ce que les lieux sont importants pour déterminer la viabilité, la vie, la continuité? Est-ce qu'une revue est un lieu?
En tout cas, nous, par exemple, dans le cercle du départ, on était très peu à venir de Paris même. Enfin, on vient tous d'un peu partout en France, mais en tout cas, on s'est tous retrouvés au début dans une vie parisienne. Et en fait, Paris était le corps et le lieu de notre revue. On savait qu'on pouvait se retrouver, on se retrouvait tous les jeudis soirs, je crois, à l'époque. Après, on les a déplacés au mardi soir parce que le problème du jeudi soir, c'est que c'est très très dangereux. Ça dérive très vite parce que c'est presque le week-end. Donc, mais bon, ça faisait partie des accidents dont on parlait qui façonnent et qui cimentent la revue. Mais en tout cas, on a déplacé mardi soir. Mais on savait qu'on se retrouvait tous à un endroit. On était en résidence à la Générale Nord-Est, qui est une coopérative d'associations artistiques. Et on savait qu'on pouvait vraiment se retrouver là parce que Paris faisait un petit peu corps de l'allume-feu. Et en effet, c'est vrai que la revue a un petit peu périclité, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à des moments où il y a des gens qui sont partis, dans le Luberon, à Caen, à Marseille, à Lyon, et qui ont dit c'est pas grave, de toute façon on a Skype, on a la visioconférence, etc. Ça ne change pas grand chose. Et la plupart de ces gens ont quitté la revue en fait. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait une incarnation. Il faut qu'il y ait une incarnation qui se passe par le lieu, par le fait qu'on est à 10 minutes chacun, parce qu'autrement, c'est vraiment compliqué de faire tenir une revue avec des gens qui sont à droite, à gauche. Voilà. Donc en tout cas, je pense que c'est important de faire les choses physiquement et qu'il y ait incarnation de la revue. Ouais.
Et chaque week-end de sélection, on le fait dans un lieu différent qui est souvent bizarrement hors de Paris. Donc autant la vie de la revue est à Paris, autant c'est vrai qu'on peut aller... on a changé à chaque fois un peu de maison pour faire les temps de sélection. Et pour moi, chaque lieu habite vraiment une revue parce qu'on se souvient de où est-ce qu'on a défendu les textes, où est-ce qu'on s'est fâché, où est-ce qu'on les a relus, où est-ce qu'on a répété les poèmes. Tout est beau et voilà. Donc il y a quelque chose de profondément géographique, je pense, dans chaque revue.
Et pour répondre aussi à ce que tu dis, Yannick, je pense que les lieux aussi, les revues meurent-elles aussi, les lieux meurent-elles aussi, ils meurent aussi, pardon, du manque d'animation, du manque de vie, et que y a un moment où en fait les choses ne se suffisent pas à elles-mêmes et qu'il faut Paul parlait d'incarnation, moi, je vais parler d'animation aussi. Je pense, encore une fois, la distinction qu'on a pu faire entre la revue en tant qu'objet papier, qui est la fin, en fait, de tout ce qui était avant. Et ça, ça demande une animation. Et si on n'anime pas avec les corps, on ne fait rien. Et en fait, c'est ça la mort, c'est quand il n'y a plus de corps aussi, je pense. Et deuxièmement, par rapport au lieu, je pense que notre revue aussi est un lieu. On aimait bien un moment, on disait Alain Damasio et tout, ça nous mettait un peu de l'énergie. Et on disait que la revue était une ZAD mentale, comme une zone à défendre mentale. Et en fait, c'est ça, un peu, je crois, l'idée d'avoir la chance d'éditer aujourd'hui une revue. C'est d'avoir un espace de liberté absolue et comme un monde en soi, en nous, on n'a même pas de bureau aujourd'hui en fait, mais on a une revue. Et rien que ça, d'avoir la possibilité dans sa tête d'avoir cette expérience du lieu sans lieu, mais du lieu des possibles, et franchement, un bon ticket de liberté, je pense quand même.
Une hétérotopie.
Un peu.
Et il y a des lieux qui étaient très importants. Il y a un bar qui était très important, qui a fermé, qui est mort, mais qui comptait aussi pour la revue. Il y a des lieux dont on rêve. On parle beaucoup du Brésil, et c'est un lieu qui nous habite. Pas sûr qu'on y aille un jour, on espère y aller, mais il y a quelque chose de profondément ancré aussi dans cet exercice.